Jamais un maton s'est permis de mettre une gifle.
Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Monsieur, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est dégradé. Humilié. Déshumanisé. Deux salles qui prend la télé.
Un matin.
Dans les cours de promenade.
Un matin.
Des miradors.
Un matin.
Bonsoir.
Salut.
Alors, nous sommes le jeudi 3 avril, il est 20h et vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 FM. Il y a déjà Payoub qui s'agace. Donc l'émission Papillon, émission contre toutes les prisons. Donc pour nous écrire, je vous donne l'adresse tout de suite, émission Papillon, chez CSA La Gueule Noire, 16 rue du Mont, du plus loin Mont, M-O-N-T, 42100 Saint-Étienne, et une adresse mail pour ceux qui ont accès à Internet, émission Papillon tout attaché, @riseup.net, riseup, R-I-S-E-U-P, voilà, .net. Ce soir, on va vous lire quelques courriers, mais avant ça, on va vous passer l'interview de Catherine. Catherine, c'est la compagne de Rachid, et Rachid, on en a parlé à plusieurs reprises. Il nous a déjà écrit et il fait partie des il est passé par Condé-sur-Sarthe, donc cette prison dont on vous a déjà parlé. Et à Condé-sur-Sarthe, il a pris 8 ans supplémentaires à son cumul de peine pour l'agression d'un surveillant. Voilà.
Alors oui, pour resituer un peu, Catherine, c'est quelqu'un qui intervenait en tant que bibliothécaire à la centrale de Clairvaux. Et c'est là qu'elle a rencontré justement Rachid. Alors c'est comme ça, par ce biais-là, qu'on l'a connu. Parce que nous, quand on a su l'histoire de Rachid, qu'il avait pris quelqu'un en otage, et c'était un peu dans ce mois de décembre, très très chaud à Condé, où il se passait pas mal de choses. Il y a eu des blocages collectifs, il y a eu des prises d'otages, il y a eu pas mal de choses. Donc dans cette prison dont on rappelle que c'est ni plus ni moins que des QHS modernes. Et du coup, on lui avait écrit à Rachid. Et par ce biais-là, on était entré en contact avec elle. Et dans cette interview, elle nous raconte un peu déjà son histoire avec Rachid, etc. Elle nous raconte aussi ce que c'est qu'être proche de quelqu'un qui a une peine infinie. Parce que voilà, Rachid, pour préciser, c'est quelqu'un qui est jamais passé en cour d'assises, mais qui doit sortir maintenant à l'horizon 2038. Donc tout ça pour des faits qui sont passés en détention.
Ça
fait déjà 17 ans qu'il est à l'intérieur. Donc voilà, donc on va pas en dire plus pour l'instant. Hein. On va passer son interview qui dure une quarantaine de minutes, et puis on reviendra dessus parce qu'on a eu des petites nouvelles récentes de Rachid. Alors apprendre que là on parle essentiellement de elle et de Rachid, mais pour les auditeurs, faut bien avoir en tête que c'est pas un cas particulier. Je veux dire, le cas de Rachid, vous pouvez le multiplier par 10, par 100, etc. parce qu'ils sont pleins dans ce cas-là à l'intérieur. Donc voilà, c'est un cas particulier, mais il y en a beaucoup des commis, quoi. Voilà. Donc on va passer son interview et puis on revient, on se retrouve
40 minutes
après. Voilà.
avec Catherine. Donc, bon, toi, t'as travaillé longtemps en milieu pénitentiaire et aussi depuis quelques temps, tu suis un détenu, tu es proche d'un détenu. Voilà, qui est un détenu longue peine, qui est libérable en 2038. Et c'est justement Rachid qui était transféré à Condé, qui a pris un surveillant en otage et qui a repris 8 ans de prison. Donc on en avait déjà parlé dans les précédentes émissions. Voilà, alors pour commencer, est-ce que tu peux peut-être revenir, alors si tu le sais, hein, mais sur son transfert à Condé-sur-Sarthe. Donc c'était en décembre, si je ne me trompe pas.
Alors le transfert à Condé, ça s'est fait à la suite d'une longue succession de transferts, parce que depuis qu'on s'est connu en 2012, Rachid avait demandé à revenir à l'endroit où il était incarcéré quand on s'est connu, c'est-à-dire un endroit qui est proche de mon domicile. Mmh. Et depuis 2 ans, il n'a pas été, enfin sa demande n'a pas été suivie par l'administration, et il a fait 4 prisons avant d'arriver à Condé.
D'accord.
Il est arrivé à Condé suite à une mesure d'exclusion du centre de détention de Nancy, où il est arrivé et où il a passé 3 mois au quartier disciplinaire.
Ouais.
Donc on l'a envoyé à Condé puisque c'était une des prisons dans laquelle il n'était jamais allé aussi, et qui correspondait au profil des personnes qui étaient. Et puis donc les raisons pour lesquelles il a fait ça, pour moi, elles sont pas évidentes. Hein. Ouais. Il y a eu un souci avec un membre du personnel et pas celui qui a été pris en otage, un autre. Et bon, il devait y avoir aussi des tas de soucis. Bon, j'ai pas eu plus de détails que ça, hein, moi. Ouais. Après, on peut se fier à ce qui a été raconté dans la presse, mais... Hein.
Oui.
Moi, les vraies raisons, pour l'instant, je les connais pas. J'ai essayé de récupérer le dossier auprès du... Le dossier de justice, mais bon, on sait pas trop où il est.
Ouais.
Pour l'instant. Donc, j'ai pas eu le temps pour le récupérer. Donc il était transféré à Condé pour ça, et il est resté 2 semaines à Condé puisqu'il a été puisque l'affaire s'est passée au bout de 2 semaines.
Il a pas tenu très longtemps.
Et puis il n'avait pas l'intention d'y rester, étant donné le climat qui régnait, les conditions de détention, toutes ces choses qu'on sait maintenant.
Alors est-ce que tu peux préciser justement sur ça?
Alors sur ça, lui, il s'est exprimé, moi j'ai pas de détails exactement, il s'est exprimé, l'OIP lui a envoyé un questionnaire très, très dense, hein, sur les conditions de détention à Condé, donc il a répondu. Moi j'ai pas de double du questionnaire, donc je sais pas trop ce qu'il a dit. Ouais. Il s'est jamais plaint, moi je l'ai pas entendu se plaindre des conditions de détention, on en a jamais parlé. Autant il s'est plaint des conditions de détention ailleurs, ou des incidents qui pouvaient s'y dérouler, ou des problèmes qu'il pouvait rencontrer avec le personnel, autant pour Condé j'ai entendu parler de rien pendant les 2 semaines où il était. Donc, benoîtement, j'ai pensé que ça se passait bien.
Ouais.
Et donc, quand l'information est tombée à la télé, à aucun moment je puis imaginer qu'il pouvait être impliqué dedans. Voilà, je pense qu'il y a eu un gros excès de fatigue et de choses insupportables qui font que...
Alors justement... Tu disais tout à l'heure qu'il correspondait au profil des détenus qu'on envoie à Condé-sur-Sarthe, donc on en a aussi déjà pas mal parlé dans les précédentes émissions, c'est-à-dire qu'en général c'est des détenus qui sont assez récalcitrants à l'autorité, on va dire, de l'administration pénitentiaire. On peut justement parler un peu justement du fait pourquoi Rachid il est libérable qu'en 2038, et alors qu'à la base, si je ne me trompe pas, il rentre pas en prison pour la première fois pour une peine si longue, on va dire. Et du coup, rappeler un peu ce qui l'a amené à être un détenu qui va être enfermé pendant encore plusieurs dizaines d'années.
À l'origine, Rachid, il est entré en 96, enfin, il était condamné en 96 à 2 ans pour vol avec violence. Donc il aurait dû sortir en 99. Et donc le premier fait qui a prolongé son incarcération, c'est un outrage personne dépositaire de l'autorité publique. Ensuite, encore un outrage. Et puis là, bon, ben, on commence à engranger, hein, un mois, plus un mois, plus un mois. Et après, bon, à l'intérieur, ça, c'est, les incidents sont multipliés. Donc, beaucoup d'outrages au départ.
Donc, des mots, hein, quelques, juste des mots.
Menaces de mort. Mais bon, comme on peut menacer de mort quand on est excédé, hein, sans pour autant vouloir tuer la personne. Mais ça fait rien, ça, on prend 8 mois quand même, rien que pour l'avoir dit. Il s'était passé quelque chose d'intéressant. Il avait fait une tombe dans le jardin et mis une croix. Donc pour ça, il a pris quelques mois aussi.
D'accord.
Il avait mis un nom, hein, sur la croix.
Oui, il avait mis un nom, ouais.
Oui, puis un peu côté provocateur aussi.
Ouais.
Ensuite, bon, ça a été des violences aggravées, des violences volontaires. Des feux de cellules, des dégradations de biens, enfin, des choses comme ça. Et puis, de fil en aiguille, donc, on arrive à 2031, avant les événements de Condé. Hein.
Tout simplement parce qu'en fait, ils ne supportent pas la vie à l'intérieur.
Ce qu'ils ne supportent pas, c'est que les surveillants ne fassent pas leur métier de manière impartiale. C'est que il le dit, hein, il est capable de le dire, il y a des gens qui font leur boulot, qui ont compris quelle était leur place. Et puis il y en a, comme ceux qui viennent de sortir le tract, là, qui voudraient dicter au directeur la façon de gérer son établissement et qui, au niveau des coursives et du quartier dans lequel ils travaillent, font la loi, en fait. Donc si une tête de détenu ne leur revient pas, c'est eux qui vont décider du sort du détenu, lui ouvrir ou pas la porte, lui jeter des pots de banane, enfin voilà. Donc en fait, le détenu, le comportement du détenu, c'est je me tais, je demande à ce qu'on m'ouvre la porte, mais je suis patient, je mange ce qu'on me donne, même si c'est pas bon. Si je suis malade, tu me plains pas. Je ne vais pas en activité parce que ça fait lever le surveillant de CHS, ça le perturbe. Enfin bon, ils sont pas tous comme ça. Mais quand il y en a des comme ça, automatiquement, ça dégénère et ça génère des problèmes. Dans le compte-rendu d'incident, on ne dit pas pourquoi ça a dégénéré et on ne dit pas pourquoi pourquoi on en est arrivé à un incident. Là, on le sait jamais.
Oui, bien sûr, on reste au fait. Et puis,
voilà, c'est lui qui va sauter dessus. Moi, j'ai rien fait pour qu'il me saute dessus, bien sûr. Hein. Donc, c'est évidemment toujours la faute de celui qu'on va accuser. Et lui, il n'a absolument aucun moyen de se défendre. Et de toute façon, il ne sait jamais faire présenter en commission de discipline ou ailleurs. Il a pris les avocats commis d'office qu'on lui a donné, mais il n'a jamais été plus loin, il n'a jamais fait appel,
Alors ça, c'est un choix de sa part ou c'est par défaut?
Je ne sais pas. Évidemment, quand il va au tribunal, il a un avocat commis d'office. À l'intérieur, de toute façon, il n'a jamais été... il n'a jamais participé physiquement aux commissions de discipline. Il a toujours refusé d'être présent. Il n'a jamais voulu assister au débat contradictoire. Il reconnaît les faits et après, c'est un petit peu sa façon de dire les choses. Vous faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez à faire. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire aussi.
Donc, du coup, quand il se... Enfin, je reviens sur Condé-sur-Sarthe parce que c'est une prison ultra moderne dont le modèle va se répandre, en fait, pour justement enfermer des gens comme Rachid. Qui se révolte, du moins aussi pour l'application de ses droits ou pour d'autres raisons, quoi, mais pas que. Mais quand il est à Condé et qu'il prend le surveillant en otage, en fait, lui, qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là, en fait?
Alors à ce moment-là, il veut quitter Condé, il veut partir. Bon, la revendication depuis 2 ans de Rachid, c'est le retour à la case départ, là où on s'est rencontrés.
Donc un rapprochement familial. Enfin, pas familial, mais un rapprochement, du moins, avec ses proches, quoi.
Avec sa proche, parce que depuis 17 ans, il n'a plus de proches.
Donc, il est seul. Donc, en fait, à l'intérieur...
Je suis la seule personne proche de Rachid. C'est vrai que là où on s'est rencontrés, c'est aussi plus ou moins sa terre natale, puisque c'est le plus proche endroit de son domicile d'origine, il y a 17 ans. C'est sa région. Il est né ici, c'est ses racines, et c'est là qu'il veut retourner, tout simplement. Et c'est là où il pense qu'il va pouvoir s'apaiser.
Donc depuis 17 ans, en fait,
il a pratiquement eu, enfin, il a eu peu de parloirs, et jusqu'en 2038, en gros, il ne verra que toi, c'est ça. Enfin, si tu
décides. Bah, à moins qu'il développe son réseau social, comme on dit aujourd'hui, mais ce qui m'étonnerait. Est
pas possible quand
pendant, pendant 17 ans, il n'a eu aucun parloir, sauf un parloir exceptionnel. Donc, il n'avait aucun permis de visite. J'ai été son premier permis de visite au bout de 17 ans. Il fait que bah régulièrement, quand on l'envoie dans un endroit qui est trop loin où moi je ne peux pas accéder, il relance la machine pour pouvoir être transféré à nouveau.
Donc avec les moyens qu'il a, du coup.
Bah avec les moyens qu'il a. Alors le moyen de pression le plus répugnant qu'il peut avoir, c'est d'aller au quartier disciplinaire et c'est ce que de répandre ses excréments au quotidien dans sa cellule. Donc au bout d'un moment, bah il est il n'y a plus aucun surveillant qui peut accéder. Et bon, certains sont un peu plus c'est un peu forcé d'y aller parce que bah il y a un code de procédure pénale aussi qui oblige les gens à agir. Hein. On peut pas laisser enfermer pendant 15 jours sans lui donner à manger.
Donc c'est du désespoir en fait, quand on en est à balancer ses excréments, c'est du désespoir. C'est ce que tu.
Alors, il avait commencé à Moulin. Il a commencé à faire ça à Moulin en 2010. Et il avait valu des articles de presse. De la part de journalistes qui connaissaient ni les tenants ni les aboutissants, mais qui devaient se faire les perroquets des syndicats. Bon, après, c'est une méthode dont ils revendiquent cette méthode d'après les soldats de l'IRA.
D'accord.
Pratiquer ça dans les prisons irlandaises. Enfin, bon, je peux pas vous en dire plus.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
Tout à fait.
Ouais, voilà. Donc pour lui, bah, c'est son arme fatale, hein, il n'en a pas d'autre. Mais ça lasse plus personne, ça marche plus. Le ministère, c'est pas lui qui respire l'odeur.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Rachid n'est pas transféré à la prison qui est proche de ton domicile, en l'occurrence, c'est à la centrale de Clairvaux, en l'occurrence, c'est ça?
Voilà. Alors pourquoi? Ben les raisons sont très floues. Moi j'ai essayé de les connaître, on m'en a donné déjà. Bon, le fait qu'on ne remet pas un détenu aussi rapidement de l'endroit d'où il vient, qu'ils choisissent aussi les directeurs et que moi je répète ce qu'on m'a dit. Hein.
Alors ça c'est intéressant ce que tu dis justement. Qu'on remet pas un détenu, donc en l'occurrence un détenu avec une peine assez longue, j'imagine, de l'endroit d'où il vient. Donc en gros, l'éloignement et l'éloignement de la famille, des proches, de la région d'origine, du coup, c'est clairement une prérogative, je dirais, enfin un mode de fonctionnement de l'administration pénitentiaire finalement.
Sauf que à cette époque-là, la direction était intérimaire et qu'on m'avait dit, on attend qu'un directeur soit nommé. Parce que c'est une personne difficile à gérer et on ne peut pas l'imposer à un directeur intérimaire. Ce qu'on a bien voulu accepter comme réponse. Ça permettait d'attendre 2-3 mois, c'était encore pas... c'est pas excessif. Sauf que quand le nouveau directeur a été nommé, lui, il a été affecté dans un autre établissement. Et c'était une grande surprise, d'ailleurs. Donc là, évidemment, on ne nous a pas donné d'explication, hein, parce que c'est pas digne d'en recevoir, je pense. Et j'ai plus ou moins fini par savoir que le directeur nommé ne pourrait pas convenir dans la gestion de Rachid, etc. Après, bon, il se trouve aussi que dans ce genre d'établissement, on ne peut pas avoir plusieurs profils qui se ressemblent. À Condé, on peut en avoir 70 rassemblés sous le même toit, mais pas ailleurs. On peut pas en avoir deux. Bon, moi, je répète ce qu'on me dit. Hein,
Oui, c'est les raisons qu'on t'a données, officiellement.
Voilà, c'est ça. Donc, il faut peut-être attendre que la place se libère. De chaise musicale. Hein, et puis, après, il est allé à Réau. À Réau, ça s'est relativement bien passé. Sauf que sur la fin, il y a eu des événements. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé sur la fin. Je pense que c'est Réau qu'on dit, c'est...
C'est un peu similaire.
Le problème de ces établissements nouveaux.
C'est ça.
Ensuite, il est parti à Nelin. À Nelin, il est resté 3-4 mois. Il a demandé son rapprochement, donc on lui a donné Nancy. Nancy, ça aurait pu très bien se passer, sauf qu'à l'arrivée, on lui a jeté une peau de banane. Donc, il a séjourné 3 mois au Cudiv où il est allé directement, volontairement. C'est lui qui a choisi d'y aller.
D'accord. Alors, qu'est-ce que t'appelles?
Simplement parce qu'à l'arrivée, normalement, il a le droit, parce que c'est prévu, de superviser le déballage de son paquetage. Et ça lui a été refusé. Donc, son droit étant bafoué, s'est révolté. Et il aura pourri la vie pendant tout le temps qu'il est resté à Nancy. C'est que le temps qu'il est resté à Nancy, j'avais des appels tous les 10 jours. Et encore quand on le sortait de sa cellule. Parce qu'il refusait d'ouvrir la porte, hein, catégoriquement. Donc il pouvait rester à ne pas... On lui filait son repas, tous ses repas du jour en même temps, de manière à l'approcher le moins possible.
Expliquer dans un courrier comment tu avais rencontré Rachid, et c'était assez intéressant et révélateur en fait. De toi, tu intervenais en prison à l'époque à Clairvaux, et tu as rencontré Rachid, tu as pris en compte sa personnalité, etc. Il y a une histoire qui s'est tissée, et ça n'a pas été du goût de l'administration pénitentiaire,
non, pas exactement de l'administration. C'est pas tellement eux le problème. Ça n'a pas été eux le problème. En fait, le directeur voyait ça d'un œil bienveillant, puisqu'il en voyait les bienfaits, autant pour lui que pour le personnel, qui finalement, Rachid étant occupé tout simplement, des activités qu'il avait lui-même mis en place, parce que c'est lui qui avait décidé de s'intéresser à ce que je faisais, et c'est lui qui avait décidé de me contacter. Et de passer un peu de temps avec moi. Donc ça arrangeait tout le monde, puisque pendant ce temps-là, tout le monde était tranquille, il bouquinait, je lui avais apporté des origami à faire, et puis il attendait la semaine suivante que je revienne, et puis ça s'était mis en place comme ça. Et les échos que j'en avais, moi, c'était qu'effectivement, il foutait la paix au monde, il n'y avait pratiquement plus d'incidents. Il commençait à se réveiller un peu, c'est-à-dire à sortir de son trou, parce que c'est quelqu'un qui s'était replié sur lui-même et qui communiquait avec personne. Mmh. Et évidemment, il y a des surveillants qui avaient commencé à essayer un petit peu de freiner le truc en disant « Oui, non, tu le verras pas aujourd'hui. » Et puis, c'est toujours les gradés qui sont intervenus. Pour que les choses se fassent. Ça a toujours été les gradés qui ont compris que c'était bien que ça se fasse. Et puis, il y a eu aussi des règlements de compte personnels, donc de gens qui n'avaient absolument rien à voir ni avec lui, mais qui n'ont pas supporté que... j'ai pas les chevilles qui enflent, mais je vais le dire quand même, que quelqu'un de ma classe puisse s'acoquiner avec quelqu'un comme lui. Je parle de gens qui bossent en prison, hein, qui sont capables d'avoir ce jugement de valeur et de dire que il a rien à faire avec moi, j'ai rien à faire avec lui. Nos mondes sont complètement différents et ils ne doivent pas se rejoindre, soit dans l'amitié, soit plus loin. Voilà. Donc il est parti, on coupe les ponts, on passe à autre chose avec quelqu'un d'autre. Mais ça a été le jugement de 2 ou 3 personnes, et pas forcément des gens qui appartiennent à l'administration pénitentiaire, et j'insiste là-dessus. dans mon cas particulier.
Oui, oui, bien sûr. Après.
Bah oui.
Et du coup, c'est allé quand même, enfin l'histoire est allée quand même assez loin parce que ce que tu, tes interventions en prison, t'as dû y mettre fin.
Alors j'y ai mis fin parce que bon, dans un premier temps, le directeur en place, à qui je suis allée dire que je communiquais toujours avec Rachid, quoi qu'il n'était plus dans l'établissement, lui, pour lui, ça ne posait pas de problème.
Après, il a rien à dire hein, au final là-dessus.
Par contre, les deux, trois personnes qui, elles, voyaient vraiment un inconvénient à ce que je continue à venir, parce que ça les dérangeait personnellement, pas du point de vue de l'établissement, mais personnellement, elles, comme individus, ont tout fait pour monter une cabale et essayer de persuader ce directeur-là qu'il fallait m'éjecter. Mmh. Mais il a tenu le directeur, il a tenu malgré tout. Et puis il est parti. Et son remplaçant, qui ne me connaissait pas, et qui s'est plus ou moins laissé persuader des arguments qu'on lui a donnés contre moi, m'a demandé à choisir. Il a dit, c'est soit je reste, mais je coupe les ponts avec Rachid, soit je m'en vais.
Bah, alors ça, c'est quand même... c'est quand même aller bien outre, à mon avis. Enfin, pareil, hein, moi, j'ai pas le code de procédure pénale en tête, mais il va bien outre.
Il m'a sorti un article. Ah. Il m'a sorti un article, ouais, qui dit que on ne peut pas nouer une relation personnelle avec un étudiant, que ce soit un personnel de l'établissement ou un intervenant.
Oui, mais à partir du moment
où il m'a sorti et que ça pouvait être justiciable.
D'accord. Même Alex, même si cette personne-là n'est plus dans l'établissement en question. Ouais. Est-ce que finalement cette histoire-là, c'était le prétexte pour ne pas donner suite aux demandes de Rachid de retourner à Clairvaux, non, justement.
Non, j'en sais rien. Je sais pas. Peut-être que, parce que effectivement, les meneurs sont connus du ministère. Hein. On a eu la confirmation. Après, de savoir s'ils ont suffisamment de poids pour empêcher. Peut-être pas le retour de Rachid, mais du moins le mien, même si c'est pas par la même porte. Donc je pense que tant que ces gens-là sont en place, ils feront tout pour empêcher les choses de se faire avec leurs moyens. Mmh. Bon, le seul moyen de pression, évidemment, c'est les syndicats. Je sais pas trop, je veux pas m'avancer. Bon, effectivement, il y a ces gens-là qui sont terribles, qu'on la rancune tenace et puis qui se croient aussi plus ou moins en danger.
Ouais.
Forcément, il a cherché à se venger, mais se venger de quoi? Lui, on n'a rien fait, en fait. C'est moi qui ai tout pris. Donc ouais. Lui, il a se venger de rien. Donc le harcèlement, c'est moi qui l'ai subi pendant 6 mois. Hein, et c'est pas lui.
Donc du coup, ça, c'était le début aussi de vos, enfin, de comment ça s'est construit cette histoire-là. Mais maintenant que ça fait 2 ans et demi, qu'est-ce que tu peux dire du fait qu'est-ce que ça représente d'accompagner une personne pour une longue peine, en fait, d'être proche d'une personne qui sortira à l'horizon de 2038, quand toi, t'auras 20 ans de plus. Enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça?
Bah, je dirais que quand je l'ai connu,
du coup, ça questionne.
Il avait des perspectives de sortie autour de 2014. C'était il y a 2 ans. Hein. C'était il y a 2 ans. Et il avait une perspective parce que, bon, je sais pas, je peux pas en discuter parce que j'y connais absolument rien, mais bon. Il se trouve que depuis 2 ans, il a récupéré plus de 10 ans de condamnation. Donc on est reparti, ça repousse déjà 10 ans là, à partir de 2014.
Oui, et puis on rappelle que ce genre de peines ne sont pas confusionnables, donc du coup il n'y a pas de,
voilà.
Y a pas de possibilité de,
eh ben
de...
La seule confusion qu'il avait demandé, elle a été rejetée. Et donc, de toute façon, ils se font plaisir quand ils condamnent Rachid. Puis, ils se font d'autant plus plaisir que qu'il les ménage pas.
Oui. Oui, voilà. Oui,
voilà, donc outrage, au bout d'un moment, l'humain étant ce qu'il est. Et donc, l'accompagner, bah, je veux dire que je me posais pas trop la question avant l'affaire de Condé, parce que je voyais encore des perspectives. Par contre, là, je suis dans le creux de la vague, je vois rien. je vois plus rien. Parce que 2038, effectivement, moi ça me projette très très loin. Je me dis que bon, je suis pas toute jeune non plus, hein, et il peut m'arriver un tas de choses. Je peux mourir demain, dans 10 ans. Mmh. Et pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est je ne le connaîtrai jamais vivant dehors. Donc je me dis que il faut prendre conscience des choses et que je vais j'accompagne quelqu'un. Je suis accompagnée de quelqu'un avec qui je ne vivrai jamais, en dehors de passer 2-3 jours dans un appartement qu'on voudra bien nous accorder. Hein. C'est vrai que quand on est dans l'appartement, si on regarde pas par la fenêtre, on peut se croire dans une tour.
Dans un studio, oui, voilà.
Mais regarde la télé.
Donc l'appartement, juste pour préciser, c'est unité de vie familiale.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça fait petit appartement. C'est confortable. Hein. Quand on est dedans, on sait pas où on est. On nous amène les yeux bandés. Faut pas regarder par la fenêtre, c'est tout. Après, moi, ça fait que 2 ans. Hein. Ça fait que 2 ans que je...
Oui, que tu vois ça de vraiment plus près.
Parce que Martine, Al-Chenaoui, elle, c'était quoi? C'était 30 ans. Non, je sais pas. Enfin, ils ont fait un enfant. Ils ont vraiment eu une vie de couple. Et puis, elle pouvait aller le voir régulièrement. Moi, je peux pas. Il est trop loin. Donc, quand il était à Rio aussi, tous les 10 jours, j'allais le voir au parloir. On avait un parloir de 3 heures. Et à partir du moment où j'arrivais à Paris, j'étais presque déjà avec lui. Et puis, puis on a eu 2 UVF quand même, donc assez rapprochés. Et bon, c'est spécial, hein. C'est spécial tout le temps pour lui qui avait vécu pendant 17 ans. Enfin, on savait plus ce que c'était que la compagnie de quelqu'un. C'est pas facile de vivre avec quelqu'un pendant 24 heures, surtout quand on est enfermé et qu'on peut pas s'échapper. Oui. Où il y avait suffisamment de pièces pour pouvoir s'isoler. Mais en même temps, il faut partager le repas, il y a des choses, il faut partager les toilettes, la salle de bain, faut partager. Ouais. Et alors ça, il savait plus qu'il fallait éteindre des lumières, fermer le frigidaire, fermer sa porte de toilette. Donc des habitudes sociales, on va dire, de vie en communauté qu'il a complètement perdu. Et dont il ne se rend pas compte en plus qu'il les a perdus.
Bah, c'est souvent le cas pour plein de détenus qui sortent. Hein,
C'est bien les UVF, c'est vraiment une bonne chose parce que justement ça leur permet de se rendre compte de l'état dans lequel on les met.
Le problème c'est que voilà, c'est souvent ça peut être difficile pour en obtenir, c'est souvent aussi un rapport de force instauré pour en avoir, c'est aussi une petite carotte aussi en plus, enfin il y a tout ce l'effet pernicieux derrière, mais effectivement c'est sûr que quand on est j'imagine quand on est enfermé et qu'on a l'opportunité d'avoir une UVF, ça peut être que bénéfique, quoi, ça c'est sûr. Mais
le fait que moi je sois là, ça change rien à sa vie en détention. C'est pas parce que je suis là que son quotidien a changé, hein, et que son rapport avec le personnel a changé.
Moi. Bah, d'autant plus quand la perspective de sortie elle est quand même assez loin, que tout ce qui est soi-disant réinsertion, je veux dire quand on a une date. Qui est complètement hallucinante, je veux dire, quel effort on va faire pour soi-disant se réinsérer quand on va sortir dans 30 ans, quoi.
Évidemment, lui, il dit, moi, j'ai rien à perdre, de toute façon, un mois de plus, un an de plus, qu'est-ce que ça va changer? Ça change plus rien, parce que ça a tellement pas de sens pour lui. Donc, comme il a rien à perdre, comme tous les autres, hein, de toute façon, ça lui donne tous les pouvoirs, je dirais. On lui donne les pouvoirs.
C'est même pas des... Ouais, ou alors c'est peut-être que lui a un rapport de force. C'est ce que on en avait parlé quand on avait discuté ensemble. C'est peut-être un truc pour pas se... Un rapport de force qu'il a instauré lui-même pour pas se faire écraser, quoi, dans cet univers-là, quoi, qui est hyper dur. Quoi.
Il m'a appelé, quand je lui ai dit, j'ai dit, est-ce que tu as le syndrome de la femme battue? Et non. Donc, c'est, je ne me laisse pas faire. Hein, je tends pas la joue pour recevoir une autre claque. Il y en a des détenus qui le font parce que s'ils n'ont pas le caractère. Lui, c'est pas son caractère de se laisser faire. Et comme c'est pas le caractère des autres révoltés, voilà. Il y en a qui arrivent à subir, il y en a qui n'arriveront jamais à subir. Je crois que même en 2038, il sera le même. Parce que c'est sa personnalité, c'est son caractère. Hein. On va pas le changer comme ça. Ou alors, il faut le cachetonner.
C'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être une transition à faire... par rapport au tract, alors tout à l'heure t'en parlais, donc on va un peu préciser ce que c'est un truc que tu m'as envoyé aujourd'hui là, donc c'est un tract de FO pénitentiaire qui se plaint du fait que Rachid ait finalement été classé comme peintre à l'établissement où il se trouve maintenant à Saint-Martin-de-Ré, et qui justement demande une injonction de soins pour Rachid. Alors déjà il demande son déclassement, pour eux c'est intolérable que qu'un détenu comme lui... qui obtient des choses, parce que finalement s'il l'obtient c'est parce qu'il a c'est peut-être aussi parce qu'il a ouvert sa gueule à un moment donné et qu'il a instauré un certain rapport de force, peut-être.
Et Rachid réclame ses droits.
Voilà, oui, oui, tout simplement. Donc il a...
Et pour ça il est puni aussi.
Et eux n'ont que leur devoir à faire.
C'est ça. Voilà. Et du coup, l'injonction de soins, ce qu'il demande, bon, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, mais c'est pour ce genre de détenus, c'est les mettre au cachot dans les oubliettes avec de la paille dans le noir, et puis ou alors la version un peu plus moderne, c'est-à-dire les piquer, les cachetonner, enfin bref, comme ça s'est fait à Condé, hein, nous on a des témoignages de Condé où il y a des détenus qui se font piquer de force, voilà, parce qu'ils sont trop récalcitrants. Donc eux, c'est vraiment leur façon de voir les choses finalement, et de gérer la population carcérale, quoi.
Alors gérer la population, oui, moi je reviendrai tout au début du tract qui est injurieux, qui est d'autant plus injurieux que son nom est cité, et qui est donc, je pense qu'on va faire une action... L'action justice par rapport à ça, il n'y a pas de raison, ça va se plaindre. Rachid, le nombre d'outrages pour lesquels il a été condamné, hein, donc on peut pas à la fois le condamner pour outrage et faire pareil en pensant qu'il va pas réagir.
Ouais, parce que le tract, je pense qu'on en lira des extraits, mais ça commence par vermine et
prime à la vermine et à la racaille.
Voilà, c'est ça, prime à la vermine et à la racaille, ouais. Voilà.
Donc il faut peut-être entendre que la prime, c'est à lui qu'on l'a donnée, c'est pas à eux qui réclament une prime.
Oui, bien sûr, oui.
Hein, c'est ça. Et bon, de toute façon, ils sont contre la réinsertion en prison, ça c'est aussi ma grosse douleur, la réinsertion en prison. Donc il faut le laisser dans son trou, peut-être avec des clous aussi à la place du matelas, et
ouais, c'est ça.
Après ils attaquent l'administration pénitentiaire, ils attaquent l'état-major de sécurité.
Oui, parce qu'il aurait cédé un certain chantage.
L'incompétence de l'état-major. L'état-major, il n'est pas là pour surveiller, pour ouvrir des portes. C'est pas eux les incompétents dans le domaine. Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Le MS qui est soucieux du confort et du bien-être des voyous sans foi ni loi.
Ils ont qu'à prendre
ils ont qu'à
prendre la place de Rachid, hein, s'il est dans le confort.
Mais ils leur disent c'est quelque chose qu'il leur dit régulièrement. Prenez ma place, hein. Donc le tract il est assez contradictoire d'ailleurs dans leurs propos, hein. Parce que quand ils disent que quand l'administration pénitentiaire démantèle et détricote dans leurs décisions et leurs projets, ils favorisent des actes de violence, de rébellion et de mutinerie. Moi, je connais suffisamment bien l'état-major, enfin la centrale, pour savoir que c'est pas ça du tout. Hein. Dans ce qui concerne Rachid, qu'est-ce qui provoque ces actes de violence, de rébellion et de mutinerie? C'est l'affrontement avec le personnel, c'est-à-dire celui qui vient lui tendre la plus foutre une peau de banane devant sa porte quand il lui ouvre.
Ah oui.
D'autant plus que le tract est mensonger, car le syndicat FO pénitentiaire dit que Rachid, comme d'autres qui sont dans sa situation, parce que Rachid il n'est pas le seul, ils sont impunis.
Ah bah oui, 8 ans, c'est quand même pas une impunition.
Ouais, quand même.
Ah, 8 ans, enfin, je sais pas, ou alors... prendre 8 ans, bon, c'est sûr que... c'est pas, on va pas aller glorifier ce qu'il a fait, et bon, lui, il a des raisons, mais je vais pas aller dire c'est bien ce qu'il a fait, c'est pas ça. Il l'a fait, il s'est pris 8 ans dans la gueule, comme il dit, pour défendre une cause. Il dit, moi, je me suis pas pris 8 ans, hein, pour que ça serve à rien. Donc, bon, c'est pas Robin des Bois, ni Che Guevara, mais en attendant, il essaie aussi de faire bouger le système, hein, ouais. Et de se dire que les détenus ne peuvent pas, c'est pas l'administration, c'est pas le problème de l'administration, c'est le problème de celui qui ouvre la porte et qui finalement va provoquer l'attention.
Mais en amont, excuse-moi, je te coupe, en amont de celui qui ouvre la porte, il y a quand même des directeurs prison aussi. Alors, soit il y a un rapport de force qui est posé, mais n'empêche que l'administration pénitentiaire, elle est une avec des équipes qui sont plus ou moins sympas selon les roulements, etc. Mmh. Mais n'empêche qu'entre eux, ils se soutiennent. Et au-delà de ça, il y a les juges qui condamnent à des peines, des cumuls de peines, et qui deviennent finalement, comme dans le cas de Rachid et d'autres, des peines interminables.
Bah, Rachid, en 2038, il aura presque 60 ans. Mmh. Hein? Donc, il est en excellente santé actuellement, mais ça peut vite se dégrader parce que passer, je dirais, 6 mois de l'année dans un cachot, dans les conditions dans lesquelles on y laisse, hein, ouais. C'est quand même limite.
Ouais.
Il a de la chance de s'en être bien sorti quand même, relativement physiquement pour l'instant.
Ouais. Et moralement.
Et moralement, bon, le moral, je crois que c'est ça aussi qui le fait tenir. Je pense que si un jour il arrêtait le combat, Rachid, c'est la fin. Hein. Mmh. Ça le maintient en vie aussi, son combat.
C'est hyper important ce que tu dis là.
Comment ?
C'est vraiment hyper important ce que tu dis. Qu'en fait, finalement, c'est d'être en combat aussi à l'intérieur face à ce qu'on vit, face à ce qu'on... Face à ce qui nous broie, qui nous maintient, en fait.
Il n'est pas capable. Parce que s'il commençait à ne plus répondre, je pense que là, il commencera à comprendre que qu'il meurt. Qu'il se liquéfie. Et c'est pas du tout son tempérament. Je dis pas que... Je suis toujours peinée quand il est en colère ou quand je sens que ça va tourner... au vinaigre, mais en attendant, j'ai expliqué ça un jour à quelqu'un à l'intérieur, j'ai dit, mais laissez-le, laissez-le faire, hein, c'est le seul moyen pour lui, il en a besoin déjà, sinon il s'écroule, donc c'est son instinct de survie, hein. Voilà, sa manière de se révolter, c'est son instinct de survie, surtout s'il sort en 2040, parce que je pense que là, c'est pas fini. Il attend encore au coin du bois. Il a des affaires qui traînent, donc c'est pas terminé. Il faudrait qu'il reste 10 ans tranquille. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit une juriste. Il faudrait qu'il reste 10 ans tranquille pour commencer à imaginer pouvoir demander un aménagement de peine.
Qui est quasiment impossible, en fait, de rester tranquille. Enfin, c'est ce qu'on disait.
Il peut pas rester tranquille, sinon il se perd, lui-même. Donc, voilà. Si je lui dis, écoute, demain, t'arrêtes, c'est fini, tu subis ton sort, tu dis amen à tout, tu leur fais des sourires, et il te tape dessus, tu dis merci, non. C'est pas possible. Dans son cas, c'est pas possible.
Ok, bon, alors, on va conclure. Bah, merci à toi, en tout cas.
Oui, merci beaucoup, Catherine.
Dernier truc.
Moi, je me dis que qu'il faut vraiment sensibiliser des gens sur ces longues peines, enfin, sur l'idiotie de ces longues peines, et puis il faut se pencher sur la question.
Ouais.
Faut vraiment y travailler, là, parce que je crois que ça devient urgent, parce qu'il y a des gamins, maintenant, qui rentrent. Moi, j'en ai connu qui sont très très jeunes et qui ont commencé à en bouffer. Et rien n'est fait. Hein. Les psys, ils sont pas là pour gérer ce problème-là. C'est au-delà de la psychiatrie, c'est au-delà de la psychologie.
C'est sûr que c'est un gros chantier, on va dire.
C'est un gros chantier. Et pourquoi de toute façon, des détenus qui méritent des longues peines parce qu'ils ont commis des crimes et qui ont été jugés en assises, il n'y en a pas beaucoup, hein. Par rapport à tous ceux qui purgent des longues peines parce qu'ils sont récalcitrants.
Ça c'est sûr. Ouais.
donc ce sera peut-être plus utile dans les forces qu'ils ont du combat, dehors, dans la société civile, au boulot. Mmh. Hein,
toujours à l'écoute de Radio Dio 89.5 et c'était l'émission Papillon et c'était l'interview de Catherine. Donc voilà, justement, on va revenir un peu sur ce fameux tract là qui a été sorti par FO Pénitentiaire. On va vous en lire des extraits, peut-être que ça vous parlera un peu plus. C'est un tract assez abominable.
Ouais. Donc du coup, on en a sélectionné quelques passages et voilà. Donc prime à la vermine et à la racaille. Et évidemment, c'est un tract nominatif sur Rachid. Donc l'administration encourage, selon eux, l'impunité. Donc voilà, donc FO Pénitentiaire écrit cela. Les technocrates parisiens de l'état-major de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire sont beaucoup plus soucieux du confort et du bien-être des voyous sans foi ni loi. C'est pas comme si eux étaient sans foi ni loi. Hein. Ils favorisent des actes de violence, de rébellion et de mutinerie. Pour preuve, Rachid Boubala, libérable en 2031, maintenant c'est quand même 2038, hein, après un passage à Condé-sur-Sarthe, donc là ils reviennent sur tout son casier, ses condamnations, machin, et c'est effectivement que des condamnations qui ont lieu à l'intérieur de la prison, voilà, dans le cadre de ce que disait Rachid pour l'application de ses droits. Et là les syndicats s'offusquent, donc ils disent Boubala est aujourd'hui classé peintre. Putain, quel avantage il a dans la vie, hein.
C'est honteux, la première scandaleux, fois écœurant.
Et attends, c'est la première fois en 17 ans qu'il travaille. Honteux et scandaleux, écœurant, voilà, ils disent les mots sont faibles. Donc ils disent c'est une décision incompréhensible, loufoque, et voilà, qui sont que l'administration pénitentiaire soutient des voyous irrespectueux
de l'ordre républicain.
De l'ordre républicain, s'il vous plaît. Et qui s'engouffrent dans cette brèche pour obtenir par la force ce que le règlement leur interdit. Sauf que le règlement, les surveillants, ils l'appliquent bien quand ils veulent, quand le règlement existe, et un règlement n'est jamais au profit des prisonniers. Donc voilà, ils reviennent ensuite sur Condé-sur-Sarthe, donc il avait pris en otage un surveillant pendant 4 heures, en lui glissant un couteau sous la gorge, et le tribunal correctionnel d'Alençon le condamne à 8 années supplémentaires de prison. Donc quand ils disent que l'administration pénitentiaire encourage l'impunité, j'ai envie de dire la justice elle l'encourage pas et l'administration pénitentiaire l'encourage pas non plus. Et là ils écrivent encore, il a obtenu ce qu'il demandait, ce qui est faux. Donc soi-disant son transfert dans une autre prison, à savoir la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, et c'est évidemment pas ce qu'il a demandé. Il a pas demandé Saint-Martin-de-Ré parce que Saint-Martin-de-Ré c'est à plus de 800 bornes de Catherine, la seule personne qu'il a vue en 17 ans voilà, de prison quoi. Donc là voilà, ils font tout un laïus sur la réinsertion sociale. Boubala est quelqu'un qui n'a rien à perdre. Il s'est donné pour mission de nuire le plus possible au personnel pénitentiaire. Tac tac. Et là surtout, ils disent en gros que ça peut qu'encourager les autres détenus à faire ça. Et Force ouvrière exige immédiatement que l'administration pénitentiaire suspende cette décision de classement, qu'à chaque fois qu'il fera une demande de classement, qu'il y ait toujours un principe de dangerosité qui soit pris en compte et que du coup ça l'empêche à accéder à une toute petite amélioration de conditions en travaillant en fait, Et qu'à chaque fois, il soit aussi soumis à une longue période d'observation du comportement. Et surtout, et là, c'est des méthodes, c'est de la, au-delà de tout déjà ce qui est déballé et qui est déjà des méthodes de torture, là, l'obligation de soins à chaque fois, en fait, qui fera une quelconque demande. Donc du coup, l'obligation de soins, souvent, elle peut se faire dans le dos des détenus, etc. Et ça, on a des exemples très concrets à ce propos, que ça soit à Condé ou à Réau, où dès qu'un prisonnier récalcitrant face à l'administration pénitentiaire, il y a un membre du personnel médical qui arrive escorté de matons et qui pique à l'insu du, qui fait une piqûre à l'insu du prisonnier. Et voilà, et après il est transformé en légumes. Donc ça, c'est voilà, c'est en gros, c'est un peu des rats de laboratoire, hein, les prisonniers. Et donc voilà. Donc en gros, c'est leur communiqué.
Alors juste pour les dernières nouvelles, justement.
Et on va y répondre à ce communiqué.
Les nouvelles fraîches d'aujourd'hui, c'est que... Alors il a été déclassé, hein, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand il a pris connaissance de ce tract, Rachid est allé voir un des surveillants, un des matons syndiqués et faux, là, en essayant de, voilà, de lui demander de s'expliquer par rapport à ça. Apparemment, il est parti en courant, etc.
Il simulait tout, comme s'il se faisait
paniquer,
agresser, c'est ça ?
Voilà, tout paniqué. Résultat, rapport d'incident où soi-disant Rachid aurait essayé de l'agresser, etc. Donc, mitard, il a pris plusieurs jours de mitard, donc je sais pas exactement. Donc, du coup, déclassement, etc. Donc, voilà, ça, c'est un peu les nouvelles fraîches. Et là, il se trouve au quartier disciplinaire à Saint-Martin-de-Ré. Catherine a écrit à Isabelle Gorce, la directrice de National de l'administration pénitentiaire, qui lui a répondu dans un verbiage très administratif qu'il serait transféré, etc., et qu'effectivement il fallait mettre fin à cette situation. Mais bon, voilà.
Mais surtout, enfin ça, on va pas. C'est pas la première fois qu'on voit qu'un syndicat publie nommément ce type de communiqué sur des prisonniers. Alors là, pour le moment, c'est eux la courroie de transmission de l'information en direction des médias pour ce qui vient des prisons. Mais là, on va essayer quand même un peu de réinverser le rapport de force et du coup, on va pas laisser ça comme ça faire ainsi. Donc nous aussi, on va faire les choses de notre côté comme il faut.
Alors, en tout cas, on se tient en courant sur ce cas-là, et puis on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans les prochaines émissions, ça c'est sûr. On va passer au courrier, vite fait.
Ouais, on va lire celle de Greg d'abord.
Voilà. Alors du coup, Grégory, c'était quelqu'un qui était à Neuvik, avec qui on avait été en contact, et qui nous écrit du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, qui est un nouveau centre pénitentiaire, qui est ouvert il n'y a pas très longtemps. Et voilà, et du quartier disciplinaire. Donc c'est le 12 mars 2014. Bonjour à tous, c'est moi le petit gitan de Neuvik qui était à l'isolement. J'ai pris connaissance du journal, donc ils parlent de l'envolée, et super bien le numéro, merci à vous. Bon, moi ce qui s'est passé, ils ont voulu me faire avaler la pilule en me sortant de l'isolement, me mettant au bâtiment C travailleurs. J'ai demandé à travailler, mais évidemment le directeur n'a jamais voulu. Après ça, blocage mitard, car j'ai perdu ma mère, et comme j'étais des gens du voyage, ils n'ont pas voulu que j'aille à l'enterrement, ces chiens. Et j'ai encore mal au cœur, croyez-moi. J'ai mis le feu à la cellule du mitard, tombé inconscient à cause du monoxyde de carbone. Je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai passé Noël et le premier de l'an au mitard, et le 7 janvier, transfert à Poitiers. Toujours pas Saint-Martin-de-Ré. J'arrive ici et là, je tombe des nues. Un centre pénitentiaire, mais c'est pourri. Tout disciplinaire, sécuritaire, il n'y a pas de travail, pas d'activité, rien. 1h30 de promenade le matin, 1h30 l'après-midi, 1h de parloir UVF, mais il y a aussi la maison d'arrêt et même le mandat de dépôt qui peuvent profiter des UVF. Je croyais que c'était pour les détenus avec des peines longues, du n'importe quoi. Les rendez-vous toujours accompagnés. J'ai dit quoi ? Mais on est en maison d'arrêt, pas en CD. Et le chef me dit « Oui, vous avez raison, c'est ça les nouvelles prisons ». Il y a la douche, on peut pas tout avoir. Et je lui ai dit, ben je veux le mitard et vite. Et voilà, je bloque au quartier et j'attends. Ils m'ont supprimé le parloir de ma femme à cause d'un courrier hallucinant. Donc je vois pas mes enfants et ma femme pour l'instant. Ça fait un mois et demi, et là elle a renvoyé les papiers, j'attends. Moi je dis qu'il faut être solidaire, mais les détenus, la plupart sont pas solidaires, c'est ça le souci, et oui. Merci pour ce que vous faites, c'est le top. Pouvez-vous m'aider pour Saint-Martin-de-Ré, s'il vous plaît ? Courage à tous les détenus qui se battent. Merci à vous, collectif, Grégory. Donc voilà, donc si vous voulez lui écrire, c'est Grégory Charles, centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, Le Champ des Grolles, GROE2LS, 4, GRO2LES, 86 370, Vivonne.
Donc juste pour Neuvik, et puis peut-être que la lettre de Jérémy, on la lira la semaine prochaine, je pense.
Ouais, voilà, dans deux semaines.
Donc on vous rappelle que Greg, comme tu le disais, il était passé à Neuvik. Et à Neuvik, en fait, donc en 2013, il s'est passé pas mal de choses, surtout au quartier d'isolement, où les types, en fait, étaient en lutte pour l'application de leurs droits. Ils suffoquaient dans des cellules, c'était juste complètement hallucinant. Et suite à ça, il y avait eu plusieurs transferts disciplinaires, etc. Et là, là, pour le coup, on parlait de Rachid qui est à Saint-Martin-de-Ré, et qui est loin de Catherine. Là, en l'occurrence, c'est Greg qui veut aller à Saint-Martin-de-Ré parce que justement, là, pour lui, c'est plus proche. Et évidemment, en fait, ce que fait l'administration pénitentiaire, elle ne les transferts que les détenus veulent, ils les obtiennent jamais. Donc ça aussi, c'est une punition. Rachid, jamais il ira à Clairvaux pour X et X raisons. Enfin voilà, et en l'occurrence,
faut pas désespérer non plus, mais
bon, c'est très très rare.
Ouais.
C'est très rare, et c'est souvent après d'âpres combats. Enfin, c'est ce qu'ils nous en dit, quoi.
Ouais, tout à fait. Et il y a aussi ce truc-là de ces nouvelles prisons. Là, c'est vrai que souvent les détenus ils tombent des nues quand ils arrivent là-dedans, surtout dans un CD où normalement il y a des portes ouvertes. Et là, il le dit clairement, le directeur. Oui, c'est ça les nouvelles prisons. C'est portes fermées. Alors, on en avait pas mal parlé au moment de Rouen, là, quand il y avait tous les mouvements à Rouen. C'est-à-dire que, il y a plusieurs étages, avec un étage où c'est fermé toute la journée, un autre étage où c'est ouvert la moitié de la journée, un autre étage où ça va être ouvert toute la journée. Donc voilà, on fait le yo-yo souvent entre le B0, si t'es gentil, si t'es méchant, tu vas au rez-de-chaussée, etc. Donc c'est voilà la nouvelle gestion de la population pénale, et après on s'étonne que ça parte en cacahuète, parce que dans les CD, tu restes pour plusieurs années, quoi.
Du coup, là, c'est peut-être pas mal que tu parles de Rouen, parce que ça peut peut-être permettre de conclure l'émission. Surtout, nous, on aimerait bien savoir ce qui se passe en ce moment. On n'a aucune info sur la maison d'arrêt de la Talaudière. On n'a personne qui nous écrit. Donc, si à l'intérieur, vous nous écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui est à l'intérieur, que ça soit à la Talaudière, à Rouen, à Lyon-Corba et ailleurs, voilà, n'hésitez pas à nous écrire pour dire ce qui se passe. Catherine expliquait que Rachid disait que s'il avait pris un surveillant en otage, c'est pour que ça change. Greg, il dit que les prisonniers sont peu solidaires entre eux. Après, il suffit toujours de faire une, deux, trois rencontres. Ça va des fois pas chercher bien loin pour qu'aussi on puisse essayer de construire des choses ensemble et dans la durée. Pour lutter contre l'administration pénitentiaire et à l'extérieur, vous soutenir aussi dans vos luttes. Donc pour nous écrire, c'est émission Papillon chez CSA La Gueule Noire, 16 rue du Mont, plus loin Mont, MONT, 42100 Saint-Étienne. Une adresse mail, émission Papillon tout attaché, @riseup.net. Nous, on va se retrouver le jeudi 17 avril à 20h. L'émission, vous pourrez aussi la réécouter sur Radio Canu le troisième mardi du mois à 20h également. Donc voilà, à l'intérieur, force, courage, détermination. Et puis on se retrouve à très bientôt. Et voilà.
Ok, allez.
Ciao.
À la prochaine. Courage à vous.
Dans une putain de cellule au premier étage. Sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du bastou dans la tôle. Y'a du bastou dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston à tôle. les mecs, ça va saigner.